Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Podcast is a new radio.
Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fais-tu frette. Déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujets, et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle, est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fais-tu frette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast je suis vraiment, mais alors vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez-moi, le Québec. Bonne écoute! Imaginez un peu. Justine, une Parisienne de 26 ans, débarque à St. John's, au Québec, pour un séjour de 11 mois qui lui permettra d'acquérir une expérience professionnelle inaccessible en France. Mais le choc culturel et thermique lui donnera du fil à retordre. Tu m'étonnes. Cette histoire, c'est le point de départ d'une nouvelle série disponible sur TV5 qui s'appelle Justine à St. John's. Mais cette histoire, c'est aussi à quelques nuances près celle de l'interprète principale de Justine, à savoir Lara. Lara Audemars est actrice, donc, et bien que franco-québécoise, elle nous l'expliquera, elle a toujours vécu en France. Mais, ayant été choisie pour le rôle-titre de cette série, et le tournage devant, bien évidemment, se dérouler au Québec, parce que, bon, vous à moi, évidemment, il y a de chouettes studios de tournage sur la Côte d'Azur, mais question climat et paysage, ça aurait peut-être un tantinet manqué de crédibilité. Et donc, la voilà, avec, comme son personnage, qui a dû se confronter à un léger choc culturel. Et c'est de ça et de bien d'autres choses que nous allons parler aujourd'hui avec elle. Salut Lara.
Salut.
Tu vas bien?
Super bien et toi?
Ah, super bien. Lara, j'ai une première question très directe. Qui de Justine ou de Lara a eu le plus de difficultés à apprivoiser le Québec?
Clairement Justine, c'est sûr.
C'est la tannée pour Justine.
Ouais, c'est sûr que c'est Justine. En fait, j'étais déjà venue au Québec l'hiver, donc j'avais pu déjà confronter la neige et le grand froid. Tandis que Justine, c'est la première fois sur le territoire canadien et c'est la première fois aussi pour l'hiver. Donc, le choc est bien plus grand.
Culturellement, parce que juste pour replanter un petit peu le contexte, je l'ai dit, tu es franco-québécoise.
Ouais.
Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'était franco-québécoise, mais a priori... Tu ne connaissais pas plus le Québec que ça pour... Pas tant que
alors,
ça.
Alors, si. Disons, ma mère est québécoise et mon père est français. Ma mère est partie du Québec à l'âge de 23 ans. Et Et en fait, elle s'est mariée avec mon père, donc elle est restée en France pour exercer son métier. Et donc, nous, quand on était jeunes, depuis mes 6 mois, je viens au Québec une fois par année à peu près pour venir voir ma famille ici.
Ok.
Donc, j'ai pu déjà apprivoiser le Québec, apprivoiser un petit peu l'hiver. J'y suis allée seulement 2 fois l'hiver. Donc, c'est quand même peu. 2 semaines d'hiver, 2 fois dans une vie, c'est quand même très peu pour voir l'hiver québécois.
Oui, je te confirme.
Mais voilà, donc je ne suis pas... je suis pas comme une Française qui ne connaît pas du tout le Québec, puisque j'ai quand même la moitié de ma famille qui est ici, la famille de ma mère qui vit à Montréal. Donc, je connaissais déjà un minimum du Québec. Mais voilà, entre venir en voyage, avoir une éducation un petit peu à la québécoise et vraiment vivre au Québec, il y a quand même une différence.
Et tu t'y attendais ou pas ? Ou est-ce que tu es partie de France quand tu as eu l'occasion de venir en disant bon, c'est bon, je suis franco-québécoise, maman est québécoise, j'y vais tous les ans, ça va, allez.
Alors, oui et non, je dirais que oui, parce que je m'étais préparée. Je pense que quand je suis arrivée l'été, donc tout le monde m'a dit il faut que tu t'habilles, il faut que tu aies des bottes, faut que. Et sur ça, je les écoutais comme certains ne les écoutent pas. Mon frère oui. était venu, avait fait un petit périple au Québec pendant 4 années. Et lui, il n'avait pas forcément l'envie d'acheter tout le matériel. Et moi, je n'avais pas déconné sur ça. J'avais pris tout le nécessaire. Et donc, franchement, mon hiver s'est plutôt bien déroulé. Et je n'ai pas eu tant de choc que ça. Après, j'aime quand même bien l'hiver. Donc, ça change un petit peu.
Ça me fait marrer l'anecdote sur ton frère parce que quand on est au Québec depuis un petit moment, ce que les Québécois nous racontent et ce qu'on peut constater très vite, c'est très facile de reconnaître le Français qui passe son premier hiver au Québec. Alors, il est élégant comme pas deux, hein, il a quand même un certain style et tout, mais alors il a froid, un truc de malade. C'est sûr que le Québécois n'est pas très élégant, mais lui, au moins, c'est pratique et il a chaud.
Bien sûr.
Donc, toi, globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. Tu savais à peu près où tu allais. Et donc, parle-moi de Justine. Justine, qu'est-ce qu'elle vit ? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour elle, ce choc ? Difficile au point qu'on en fait une série.
Déjà, pour commencer sur cette série-là, en fait, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que... La personne, donc Nathalie Javot, qui a écrit le script de Justine, c'est une Française, c'est une Parisienne. Et elle est elle-même venue à Terre-Neuve, là où on a tourné la série. Et en fait, c'est son histoire. Donc, ça n'a même pas été... c'est sûr que c'est une série, c'est une fiction. Donc, il y a plein de choses qu'on va changer pour la série. Mais par contre, c'est l'histoire vraie. C'est l'histoire de Nathalie. Que moi, du coup, j'ai joué, j'ai interprété ce personnage-là. Mais voilà, c'est l'histoire de Nathalie. Et en fait, cette Justine-là, elle veut changer de carrière. Elle veut en tout cas augmenter dans sa carrière. Et en fait, les chances et les jobs qu'on lui propose à Paris, ça ne marche pas. Elle est trop jeune. Il lui demande beaucoup d'expérience pour pouvoir augmenter en grade. Et en fait, elle se dit, la seule chose que je peux faire pour acquérir de l'expérience... c'est d'avoir de l'expérience. Mais pour ça, on ne lui proposait rien à Paris. Et donc, elle décide d'ouvrir sur les métiers du monde. En tout cas, elle essaye d'ouvrir sa carte et sortir de Paris pour voir où est-ce qu'elle pourrait avoir son expérience. Et c'est là qu'elle découvre qu'à Terre-Neuve, il y a le poste qu'elle rêve dans le musée de Saint-John's à Terre-Neuve. Et donc, ni une ni deux, c'est une femme qui est très déterminée. Elle se dit, génial, moi, j'y vais pendant 1 an. Je vais faire mon expérience. Puis après, je reviendrai à Paris et je pourrai présenter à mon patron la preuve que j'ai l'expérience qu'il veut pour pouvoir augmenter en grade. Et donc, ni une ni deux, elle prend un billet d'avion et elle arrive. Et sauf qu'un Français qui vient au Canada, entre le Québec, entre Terre-Neuve, entre tous les départements, toutes les régions du Canada, c'est tellement grand, c'est tellement vaste, c'est tellement différent qu'elle, en fait, elle s'est fait un peu plus une idée Québec, Montréal, mais Saint-John's, Terre-Neuve, c'est une autre planète. Hein.
Ouais, c'est pareil.
c'est vraiment, vraiment différent. En termes de neige, c'est multiplié par rapport à Montréal, parce qu'on est, c'est une toute petite île, donc il y a énormément de vent. Et vu qu'il y a beaucoup de vent, bah, il y a beaucoup de neige qui vient de se stocker. Donc, il y a des fois, il y a des mètres et des mètres de neige. Nous, quand on a fait le tournage, on a eu la chance, on n'a pas eu ça. Moi, j'étais un petit peu déçue, je l'avoue. j'aurais aimé voir toute cette neige. On n'en a eu pas tant que ça. Mais voilà, en fait, elle se retrouve avec un choc climatique parce qu'elle ne s'attend pas à ça. Elle ne s'attend pas à arriver sur une petite île. Elle pense arriver au Canada. Elle se dit une petite île à côté du Canada, c'est le Canada, quoi. Mais ce n'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et c'est très typique. Et donc, elle se retrouve face aux habitants, face à la neige, face au froid, face au vent. Et c'est ça qu'on a cherché à montrer aussi dans cette série, c'est ce choc-là climatique qu'elle a eu.
Et face aux habitants, ça se passe comment ? Parce que tu le disais, Terre-Neuve, ouais. St. John's, par rapport ouais. à Montréal, c'est pas pareil. Et par rapport à Paris, c'est encore différent.
Très différent.
On reproche souvent aux Français, enfin, pour ceux qui font des reproches aux Français, c'est pour forcément la majorité, mais d'arriver, et c'est pas qu'au Québec d'ailleurs, c'est un peu partout dans le monde, d'arriver un peu en terrain conquis, comme si on était encore les rois de France d'ailleurs, hein, carrément, façon mm-hmm. Cartier, Champlain et tutti quanti, genre poussez-vous de là, je vais vous montrer qui je suis, vous allez voir ce que vous allez voir. Ce qui est moyennement bien vécu localement, ça se passe comment pour elle ?
Bah elle, en fait, dès les premiers épisodes, en fait, elle est confrontée à des personnes qui sont très chaleureuses, très accueillantes. Et en fait, certaines personnes vont trouver ça un peu comme cliché de l'avoir arrivé, d'avoir ce comportement-là. Si vous n'avez pas vu la série, il faut la regarder pour écouter ce podcast. Mais c'est vrai que quand elle arrive, on peut tout de suite dire « Waouh, c'est un peu cliché, la Française un peu vénère ». Qui est pas très, je sais pas, elle arrive et finalement on dirait qu'elle n'est pas heureuse d'être là. Mais en fait c'est pas vraiment ça, c'est juste qu'elle arrive et elle se retrouve face à des gens qui ont des comportements qui elle n'avait jamais connu ça. Et c'est surtout c'est des gens, ils sont tellement accueillants, chaleureux, etc. que eux appellent souvent les gens love. C'est souvent des noms qui sont nous, par exemple, à Paris, quand on va t'appeler chérie dans la rue, le comportement d'une femme, c'est on va se calmer. On se connaît pas.
Si on peut sortir la boîte à gifles, c'est pas mal.
Voilà. Et en fait, c'est un petit peu ce qui se passe là. C'est que, par exemple, elle arrive directement à l'aéroport et le taxi l'appelle Love. Elle se casse la figure clairement dans la neige. Et le taxi l'appelle Love. Donc, tout de suite, en fait, elle vient mettre un froid. Et tout le début de la série, elle vient mettre une sorte de distance, comme si elle était méfiante par rapport au comportement, parce que ben, nous, les Français, on est un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on prend nos distances pour essayer d'analyser là où on se trouve, et c'est ça qui se passe. En fait, elle vient prendre une distance, et sauf que les Terre-Neuviens, ils n'ont pas de distance, ils sont hyper généreux. Et en fait, c'est ce décalage-là qu'on vient voir dans la série, que Justine est en train de vivre. C'est vraiment ce décalage d'un Français qui est un petit peu méfiant, qui essaye de prendre ses distances parce qu'il veut juste s'acclimater aussi, voir comment ça se passe. Et eux qui sont peut-être un petit peu too much dans le fait d'accueillir cette personne-là. Et donc, ça vient créer un énorme contraste entre les deux personnes.
Avec en plus, certainement, le fait que Justine, quand elle arrive, en tout cas dans son idée, dans son esprit, dans son projet, elle est là pour 11 mois.
Exactement.
Et en gros, elle veut impressionner son boss qui, lui, est à Paris. Dans un précédent podcast, Cécile Lazartigue-Chartier, sur l'interculturalité, nous expliquait à quel point c'était important d'apprendre la culture, de se fondre, de lâcher un petit peu de ce qu'on est. Quand je dis de lâcher, c'est mettre un petit peu du lest, mais pas l'oublier, mais voilà, pour s'ouvrir un peu aux autres. Difficile quand on se dit qu'on est là que de passage et qu'on doit partir, alors qu'on est accueilli par des gens qui eux, se disent « Chouette, viens, t'es la bienvenue, quoi. » C'est compliqué. Tout ça, ça fait écho à ce que toi, tu as vécu. Parce que tu disais tout à l'heure, Justine, pour faire carrière, elle doit saisir une opportunité qui, en gros, se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Mais elle y va dans l'idée de revenir pour se dire, regardez ce que j'ai fait, regardez qui je suis. Alors, ton cas est évidemment un petit peu différent. Pas la même année. C'était pas forcément pour aller que dans le nord du Québec. Et en l'occurrence, tu partais dans un terrain que tu connaissais quand même un petit peu. Mais est-ce qu'il y a des similarités entre Lara et Justine?
Alors oui et non. Je dirais plus non, parce que moi, quand je suis venue au Québec, j'avais vraiment l'objectif de m'y installer et je ne savais pas quand j'allais repartir. Tandis que Justine, elle sait exactement combien de temps elle vient. Et donc, quand on vient pour 11 mois, c'est même pas une année, c'est très court. Elle a des objectifs qui sont vraiment à court terme. Et elle sait qu'elle revient à Paris dans le même job qu'elle veut faire. Tandis que moi, je suis partie d'un job pour en faire un nouveau et pour me laisser juste dans le flot de la vie. Et je ne sais pas du tout, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Et donc, il y a quand même une différence par rapport à ça.
J'aimerais que tu nous parles un peu de ton expérience de travail. Parce que tu quittes la France pour venir travailler ici. Et tu verras, j'ai des questions un peu plus précises derrière, parce que j'ai écouté le dernier épisode de ton propre podcast. J'en parlerai un petit peu plus tard. C'est comment de travailler au Québec, travailler avec des Québécois, des Québécoises, par rapport à ce que tu as connu?
Waouh. Déjà, je veux mettre un petit aparté sur le fait que j'ai travaillé dans deux jobs complètement différents. C'est-à-dire que quand j'étais en France, j'étais enseignante en éducation physique. Donc, j'étais dans un milieu très, on va dire, fermé par rapport au job que je fais maintenant. Mm-hmm. Et le milieu de l'enseignement, c'est un milieu très... on a un job qui est fixe, on a des classes, etc. On a des collègues de travail. Et moi, je suis arrivée dans un autre job qui n'est pas du tout pareil. Histoire, c'est j'ai arrêté mon métier d'enseignante en France. Ça faisait juste un an que j'avais commencé. Et je suis venue au Québec pour réaliser tous les rêves que j'avais en tête, et dont être comédienne. Et quand je suis arrivée au Québec, je n'ai pas commencé par ça. J'ai commencé par une formation que j'avais très envie de faire. C'était une formation de yoga parce que j'en faisais beaucoup et que je l'avais enseignée aussi à mes élèves. Et j'avais envie de me spécialiser là-dedans. Alors, j'ai commencé par donner des cours de yoga. Je les ai donnés en ligne parce que je n'avais pas le goût de m'installer dans un studio. Donc, j'ai donné ça en ligne. Donc, j'ai commencé plus dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ça a duré quoi ? 2 mois, je crois. J'ai commencé à passer des auditions pour de cette série-là, de Justine. C'est ma première audition, à vrai dire.
C'est fou, ça.
Ça a été complètement fou. Parce que moi, dans ma tête, en fait, quand je suis partie du Canada, j'avais plein de rêves en tête. Et je ne m'étais pas vraiment fixée. Je m'étais dit pendant un an, j'avais économisé. Je m'étais dit pendant un an, je peux vivre de... tout et rien, et je me lance, et on verra bien ce que ça donne, et dans un an, je fais l'état des lieux, et je verrai qu'est-ce que je fais. Et en fait, je m'étais dit, je vais peut-être reprendre une école d'acting, je vais reprendre, puisque je faisais aussi un peu de théâtre en France, mais ça faisait un moment que j'avais arrêté, donc je me suis dit, je vais reprendre le théâtre, je vais reprendre les cours d'acting, pourquoi pas, je passerai des castings. Et en fait, je suis tombée sur l'annonce. C'était une annonce de casting sauvage, c'est-à-dire que vu qu'ils cherchaient une Française avec un accent français, ils ont ouvert les portes au lieu de demander en fait tout le temps aux agences ou aux agents, aux directeurs de casting. Ils sont allés chercher en sauvage, donc ouvert à tout le monde. C'est pour ça que j'ai pu voir ça sur juste un site de. Enfin, c'était les pages Facebook. Ça marche pas mal comme ça ici. Et donc, j'ai vu cette annonce-là, j'ai postulé parce que c'était ce que je voulais faire. Mais sur le coup, je me suis dit, pourquoi pas, de toute façon, je n'ai pas encore repris l'école, mais ce n'est pas grave, je tente l'affaire, on verra bien. C'est toujours riche d'enseignement de faire des castings. Et en fait, une audition, deux auditions, trois, quatre, et la cinquième, on t'appelle. Donc, ouais, c'est ça qui s'est passé. Mon histoire, c'est ça. J'ai commencé comme ça. Puis, je suis tombée amoureuse du tournage. Je suis partie à Terre-Neuve. C'était une expérience grandiose parce que moi, c'est mon premier tournage pour un premier rôle. Tu payes le billet d'avion, tu vas à Terre-Neuve. Donc, moi, j'étais jamais allée à Terre-Neuve. Donc, déjà, une super belle expérience. Et en même temps, ce qui était vraiment... incroyable, c'est que j'ai vécu un petit peu ce que a vécu aussi Justine. C'est-à-dire que je suis arrivée à Terre-Neuve comme ça, un peu du jour au lendemain. Quand on m'a dit « oui, c'est bon, t'es prise », une semaine après, j'étais dans l'avion, en fait. Donc, ça a été très, très rapide, un petit peu comme Justine. Je suis arrivée sur un sol que je ne connaissais pas. Donc, c'était intéressant aussi le jonglage entre le personnage, ma propre vie. Il y a eu beaucoup de similitudes, mais en même temps, très différents dans le caractère. Donc, ouais, par rapport à ta première question, c'était...
On va s'arrêter juste sur celle-là et je reviendrai, ouais, je reposerai la question. Parce
okay,
que,
parfait.
En fait, ça corrige ce que j'ai dit. Tu n'as pas quitté la France parce qu'on t'a proposé le job.
Non.
Tu as quitté la France, tu as tout lâché pour venir vivre tes rêves, sauf que tes rêves se sont concrétisés peut-être un petit poil plus vite que ce que tu avais imaginé.
Pas complètement, complètement.
Est-ce que ça te semble très québécois? Est-ce que on ne peut jamais trop savoir comment ça serait passé ailleurs, mais est-ce que tu as l'impression que ça aurait été un tel switch aurait été possible dans les mêmes conditions, aussi vite, avec le même succès, en France? Possible?
Franchement, honnêtement, je dirais non. Après, je te dis non, mais je ne l'ai pas fait dans le sens inverse. Donc, on ne peut pas dire que c'est la vérité, ce que je suis en train de dire. Mais je pense que oui, les opportunités ont été plus grandes, en tout cas au Québec. Je pense aussi que je n'étais pas dans la même... optique, dans la même énergie, dans la même... C'est-à-dire que quand je suis partie, j'avais vraiment tellement de foi, j'étais tellement heureuse de partir, etc., que je m'étais dit, peu importe ce qui arrive, tandis que quand on est dans notre propre pays, c'est comme si on avait des freins qui venaient se poser, des croyances qui viennent se bloquer parce qu'on a la famille, parce qu'on a l'entourage. Je pense que j'aurais moins assumé le fait de vouloir devenir comédienne avec mon entourage que j'avais en France, avec mes amis, etc. Tandis que là, c'était un peu l'ouverture. Quand on part dans un autre pays, j'ai l'impression qu'on s'ouvre à des choses qu'on n'avait jamais ouvertes dans notre propre porte intérieure, je dirais. Mmh. Et donc, oui, je pense qu'on est dans une... Ouais, on est dans une vibe, une énergie qui est complètement différente. On s'ouvre à beaucoup plus de choses. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il nous arrive plus de choses. Mais je pense quand même que le Québec, sur ça, comme là, ils ont eu un culot énorme de me prendre. Moi, sur le coup, quand ils m'ont dit « c'est bon, on te prend », je leur ai dit « mais vous êtes fous ». Moi, je n'ai pas l'expérience. Oui, je vais rentrer en école d'acteur, mais je ne l'ai pas encore fait, etc.
Je vais rentrer en école.
Bah ouais, c'est fou, quoi. Et en fait, ils m'ont dit « bah non, on te prend, c'est toi qu'on veut, on te prend ». Et je pense qu'en France, il y aurait peut-être eu un petit peu plus de réticence. Je pense que ouais, oui.
Sûr. Et sur le plateau, est-ce que justement le fait que tu sois inexpérimentée, accessoirement française avec un accent français, même si le rôle l'exigeait certes, mais est-ce qu'on te l'a fait ressentir ou est-ce que tu t'es tout de suite sentie à ta place dans l'équipe ou tu avais quand même un peu l'impression que... comment on appelle ça? Le syndrome de l'imposteur, tu vois.
Pas du tout. Clairement à ma place. Quand je pense que c'était la première journée de tournage, on a fait 14 heures.
Donc, bonne journée, ça.
Et le réalisateur m'avait annoncé au début de la journée, alors qu'on avait commencé à 5 heures du matin, il m'avait dit « tu vas voir, on commence tranquille ». Il m'avait vraiment pas mis la pression, quoi. Il m'avait dit « tu verras, on commence avec une journée tranquille, pour comme ça tu te mets dans le bain, etc. » On commence avec une journée de 14 heures. Je fais Wow, ok. Ça, c'est une
journée bien les prochaines.
Cool. Génial, sachant que je savais qu'on allait enchaîner. Mais non, pas du tout. On m'a accueilli les bras ouverts. Y a plein de personnes qui sont venues me voir, le caméraman, le perchiste, etc., qui sont venus de temps en temps. Ils me venaient me voir et puis ils me demandaient. Ça, c'était dans le tournage. Pas les premiers jours, mais au bout de quelques jours, quand on avait commencé à se connaître, ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Mais c'est ton premier rôle, mais c'est ta première expérience. » En plus, c'était en anglais. Ça aussi, il faut le dire, c'est que c'était tout quasi en anglais. Donc moi, c'était quand même assez dur, même si je ne parle pas mal anglais. Juste l'accent ternevien, aller écouter des vidéos, c'est quand même complexe. Ça va vite et ils ont quand même un vocabulaire qui leur est propre. Et donc, ouais, ils sont venus me parler et ils m'ont dit « Mais c'est ta première fois ?» Et je dis là « Ouais, ouais. » Et j'étais super gênée parce que je me suis… Et là, c'est là où ça… Quand ils me posaient ces questions-là, c'est là où j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur. Et en fait, ils étaient choqués. « Ah ouais, mais ça se voit pas du tout, mais c'est génial. » Et ils étaient trop contents pour moi. Je pense qu'ils auraient pu avoir… un peu de la réticence à se dire sérieux, nous on bosse pour le comédien principal, il est même pas de notre pays, même pas, tu sais, il y avait quand même plein de choses qui pouvaient mettre des freins, et en fait pas du tout, ils ont été, mais quand je dis je suis tombée amoureuse du plateau, c'est vraiment je tombe amoureuse du plateau, mais aussi de l'équipe. L'équipe était extraordinaire, mais ils étaient tellement chaleureux, tellement gentils. J'ai quand même pas mal voyagé. Même si je suis jeune encore, j'ai quand même pas mal voyagé avec mes parents et j'ai franchement jamais rencontré un peuple aussi gentil qu'à Terre-Neuve.
C'est ce qu'on dit en général du Québec, je connais pas Terre-Neuve, mais du Québec en général, et nous c'est ce qui nous a aussi, je veux dire, choqué au sens positif du terme, c'est choquant, cette culture de l'accueil et cette gentillesse immédiate. Ouais. Qui en est presque débordante, mais qui rend tout tellement plus chouette à vivre.
Et encore très différent Terre-Neuve de Québec. Mmh. C'est encore plus différent parce que Terre-Neuve, ils sont hyper chaleureux parce qu'il y a très peu de touristes. Il y en a, surtout l'été, mais il y a très peu de touristes et il y a très peu de gens comme... Maintenant, au Québec, on le voit, il y a énormément de Français, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent s'installer, venir un an, deux ans. Mais à Terre-Neuve, clairement, il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Donc, quand tu es étrangère, que tu as un minimum de sourire et que ils sont... C'est incroyable, la gentillesse.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
C'est vraiment un truc qu'on essaye de dire régulièrement. Je pense notamment à Christelle Colling d'Objectif Québec qui le répète sans arrêt, mais il faut absolument s'intéresser aux régions au Québec.
Ouais.
Oui, Montréal, c'est super. Québec, c'est très sympa aussi, mais les régions, il faut aller les voir. Et effectivement, les Québécois sont tellement heureux qu'on aille les voir en région, qu'on s'intéresse à leur pays, à leur culture. C'est vraiment assez étonnant. Dans ton dernier podcast, puisque donc tu animes aussi un podcast qui s'appelle Why Not Sunshine, tu nous expliqueras pourquoi. Mais tu interroges ton invité qui est Cecilia Lorenzi-Lehrer. Alors accessoirement, elle est caméraman sur des émissions comme Pékin Express. où moi je considère que les vrais champions, en fait, ce sont pas ceux qui sont devant la caméra, mais bien ceux qui sont derrière la caméra. C'est un truc de dingue. Et bah, comme c'est une femme, tu lui poses la question, comment est-ce que tu as fait ta place? Est-ce que toi, tu as déjà l'impression d'avoir fait ta place au Québec?
En tant que femme?
Ouais.
Ouais, clairement. Je pense que j'ai fait ma place et je pense qu'on m'a laissé l'opportunité de faire ma place ici. Après, j'ai jamais été comédienne encore en France. Ça va venir. Mais je pense que oui, on m'a laissé la place, même en étant étrangère. Et je pense que ça, c'est complètement différent aussi de la France. C'est-à-dire que quand c'est un étranger, je pense qu'en France, on est moins lax par rapport à ça. Je pense que c'est en train de changer, mmh. hein. Mais oui, je pense qu'ici, il y a une ouverture sur le fait qu'on n'en a juste rien à faire d'où tu viens. Mais si tu es présent, si tu as de la volonté, de la détermination, que tu es là avec le sourire, tu es là pour apprendre, que tu écoutes les gens, la place, elle vient se créer toute seule. En fait, on te laisse la place. On ne te laisse pas la place. Si, par contre, les Québécois, ils peuvent être super gentils, mais par contre... si tu arrives avec un mauvais comportement, ils peuvent te le montrer que la place, elle n'est pas là pour toi. Par contre, si tu arrives avec un très bon comportement, entre guillemets, hein, c'est subjectif, mais si tu es là pour quelque chose et que tu es bien présent et que tu es à l'écoute et que tu acceptes qu'on te donne des conseils, etc., on t'ouvre les bras et on te laisse prendre ta place, bien sûr.
Il y a un autre truc sur lequel les Québécois, effectivement, ouvrent la porte. Et là, ce n'est pas que pour les étrangers. C'est même leur conception d'une vie professionnelle, j'allais dire, et notamment auprès des artistes. Tu disais tout à l'heure que ce n'était pas forcément évident pour toi de te projeter comme étant comédienne, actrice en France. Ça l'est peut-être plus facile ici. Bah, l'une des raisons, c'est peut-être parce qu'ici, si tu es actrice, tu peux ne pas être que actrice. Moi, parmi les choses qui m'étonnent au Québec depuis que je suis arrivé, c'est quand je vois que les acteurs, les personnalités sont tour à tour chanteurs, animateurs, entrepreneurs. Enfin, on a quand même un comique qui vend des pizzas dans les supermarchés. Ça pose aucun problème. La plus grande chanteuse de country du Québec, en ce moment, elle est chroniqueuse, même pas animatrice, juste chroniqueuse dans une émission d'Access Prime Time le soir. Ça pose de problème à personne. Une chanteuse que j'adore, qui est très jeune, qui est très à la mode, Roxane Bruno, en ce moment, elle fait des shows comiques. Voilà. Et en fait, le champ des possibles pour quelqu'un comme toi, au Québec, il est quasi infini.
Ouais. Je trouve ça génial que tu parles de ça parce que c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment vécu et que j'ai vraiment ressenti et que j'en parle beaucoup autour de moi. C'est qu'au Québec, on te laisse la chance de toucher à tout, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe ce que tu as étudié. Tandis qu'en France, on est toujours bloqué par rapport à ton passé et par rapport à tes études et on te met tout le temps dans une boîte qui est très, très fermée. Et moi, ça a été longtemps des croyances limitantes. Et en fait, quand je suis arrivée ici, il y a un peu tout qui s'est comme ouvert à moi. Et je me suis dit, mais je pourrais donner des cours de yoga, être comédienne et peut-être enseigner un peu là-bas. Et attends, mais je peux aussi me former en même temps. Puis là, en fait, en ce moment, je suis en train d'écrire. Je me dis, pourquoi j'écrirais pas, moi, des cours au long métrage? J'ai toujours rêvé de faire ça, mais je me suis jamais osé faire ça. Ben là, je fais ça aussi en même temps. Et en fait, je touche à plein de choses. Et c'est juste que dans ma tête, en France, pour moi, c'était pas possible. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est quasi impossible. Mais ici, on te laisse tout faire en même temps et les gens s'en foutent. Mais ouais, clairement.
Il n'y a pas de jugement. Tu disais que t'étais dans l'éducation en France. Ça me fait penser à une animatrice ici qui pourtant est très connue, qui était sur les réseaux sociaux, très active, et qui a tout lâché parce qu'elle avait envie de reprendre l'éducation. Il se trouve qu'elle a commencé, comme toi, la carrière dans l'éducation. Et alors, ça passe crème. Elle continue à avoir sa vie sur les réseaux sociaux, à s'exposer. Et ceci étant dit, bah aujourd'hui, elle est institutrice et ça pose aucun problème. Le plus grand joueur de football américain ici, il a suspendu sa carrière pendant le Covid pour, comme il était aussi dans des études de médecine, et il est allé travailler à l'hôpital. Et normal, quoi. Et depuis, il a repris évidemment sa carrière de footballeur américain. En gros, t'es bien ici.
Ouais, je suis super bien.
Tu vas rester?
Et ben justement, j'ai une grosse semaine la semaine dernière de réflexion parce que mon ambition à long terme, c'était de faire du cinéma québécois et du cinéma français. J'avais très envie d'être sur les deux pays. Mmh. Et en fait, là, ça fait un an, ça va faire plus d'un an maintenant que je suis au Québec et je me sens très, très bien. Je n'ai pas l'envie de retourner en France, mais disons que je suis appelée professionnellement à travailler en France. J'ai très envie de tester le cinéma français et le cinéma québécois est quand même assez fermé avec mon accent. C'est quand même... On est quand même assez restreint en termes de rôle. Déjà, les Québécois acteurs sont quand même aussi restreints parce que ben, c'est le Québec, c'est une miette de pain dans le cinéma. Mmh. Malgré qu'ils font de très belles choses, il n'y a pas énormément de place. Et donc, j'ai très envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe en France. Mais malheureusement, j'ai aussi mon petit cœur qui reste accroché au Québec parce que je me sens super bien.
Je sens que tu vas faire des miles, toi.
Donc, c'est ça. Mon objectif, ça serait de jongler entre les deux pays. Donc, on va voir ce que ça donne.
Qu'est-ce qui te manque de la France ? Là, sur un plan perso ?
Forcément, la famille et les amis. C'est ça le plus important pour moi. Ce qu'on dit souvent, c'est ça.
Bah oui, non, mais c'est vrai.
Et là, je vais parler comme une vraie Française. Je pense qu'au niveau culinaire, ça me manque énormément, les bons produits.
Alléluia. Alléluia. Oui, franchement, le Québec, c'est formidable, c'est super. Il y a plein de trucs. Les Québécois sont super. Mais la bouffe. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi.
C'est pas que c'est pas bon ici, je peux pas dire ça, c'est juste qu'en termes de produits, malheureusement avec l'hiver qu'ils ont, ils peuvent pas créer des agricultures comme les nôtres. Et voilà, je pense que c'est...
Ouais, puis il y a une culture du sucre ici, d'ailleurs l'expression c'est se sucrer le bec. C'est bon, clair. Le sirop d'érable, mais il faut pas en mettre dans tout.
Non, mais c'est surtout que oui, c'est pas la même. Et je pense que quand on a été éduqué en France et qu'on a ce savoir culinaire, moi j'adore cuisiner. Donc oui, les bons produits, ça, c'est quand même. Je pense que les papilles, c'est un plaisir qui est énorme dans une vie. Hein. C'est franchement la nourriture quand on l'aime, quand on l'apprécie. Je pense que ça c'est un des éléments qui peut être très dur pour un Français qui part à l'étranger.
On arrive bientôt sur la fin de cet entretien et comme tu es franco-québécois, j'aimerais te poser la question sur le regard que tu portes aujourd'hui sur le Québec. Je m'explique. J'ai lancé ce podcast il y a 2 ans parce que dès que je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que malgré tous les efforts, et je vous assure que j'en avais fait, pour essayer d'apprendre, de comprendre, de connaître la culture, la société québécoise avant de m'y installer durablement, plus quelques visites, bien évidemment, je me suis très vite rendu compte que la société québécoise était beaucoup plus riche culturellement que ce que j'imaginais et que la société était beaucoup plus complexe. Donc, je me suis dit, on va expliquer tout ça et on va faire un podcast. Et j'aimerais bien savoir si toi, ton regard après ces quelques mois en terre québécoise, si ton regard a changé sur un Québec que tu connaissais forcément un peu, de par maman et de par tes voyages, mais moi j'ai trouvé que c'était pas pareil de le regarder à distance ou de manière sporadique de temps à autre et de s'y installer véritablement. Quel est ton regard, toi? Est-ce qu'il a changé, ce regard?
Je dirais pas qu'il a changé. En tout cas, s'il a changé, il a changé positivement. Je pense que moi, j'ai toujours regardé le Québec comme un peu un rêve parce que quand j'étais petite, ça faisait très longtemps que je voulais venir vivre au Québec. Je le disais à ma mère parce que j'avais envie de voir ses racines. Et oui, j'avais déjà un super regard du Québec parce que quand je venais, je voyais la différence. J'ai toujours vu aussi la différence en termes d'éducation parce que mon père est français et ma mère est québécoise. Donc déjà, il y avait ce rapport qui était différent. Et donc, quand je suis arrivée au Québec, il n'y a pas eu une énorme différence par rapport à ce à quoi je m'attendais. Mais par contre, au niveau professionnel, c'est là où j'ai vu le plus de différence. Et je savais que ça allait être plus simple, entre guillemets. Rien n'est plus simple. Mmh. Mais il y a quand même une sorte de simplicité qui se crée ici. Et je pense que sur ça, mon regard est complètement différent parce que je savais qu'on était dans une région, dans un pays où il y a plus d'opportunités, entre guillemets. On te laisse plus prendre ta place, on te laisse plus faire un petit peu ce que tu veux sans jugement. Ça, je le savais. Mais après un an, après avoir vécu ici un an et d'avoir changé plusieurs fois de métier, oui, je le dis que vraiment, c'est différent. On nous laisse faire ce qu'on veut sans regard, sans jugement, sans rien. Et surtout, la chose que j'ai le plus appris ici, si je peux dire ça, c'est que peu importe ce que tu fais, on te suit et on est à fond avec toi. Et ça, c'est une énorme différence, je trouve, par rapport au Canada. Et ce à quoi, oui, je m'attendais, mais pas autant. Je ne pense pas aussi fort.
Ça me fait penser à ma petite dernière qui est à l'école québécoise. Ça doit parler à l'éducatrice que tu étais. Et effectivement, toutes les notes qu'elle a, les annotations qu'elle a sur ses devoirs, c'est « tu es capable, vas-y, c'est bien ma belle ». C'est que des mots super enthousiastes et super positifs. Ce qui fait que même quand elle a des difficultés, au lieu qu'on lui dise « dis donc, t'es en retard, là, va falloir cravacher, ma petite et tout », on lui dit « vas-y, continue, tu vas y arriver, t'as progressé ». Même des fois où tu te dis « ouais, elle a peut-être progressé, mais enfin, c'était catastrophique avant, maintenant c'est juste nul ». Mais non, c'est pas du tout comme ça que c'est formulé. C'est de manière très positive. Et effectivement, dans le milieu professionnel, c'est aussi déjà le champ des possibles est ouvert. C'est possible. On se dit très vite, j'imagine, que c'est possible, puisque tu avais à peine repris, tu n'avais même pas repris tes cours d'acting que tu étais déjà sur les plateaux. C'est possible. Et effectivement, on a un entourage positif. Puisque c'est possible, puisqu'ici, il n'y a pas de barrière et qu'on est capable de tout faire. J'ai cité plein d'exemples tout à l'heure. Ta carrière ici, même si j'ai bien compris que tu la voyais des deux côtés de l'Atlantique, mais ici, mis à part jouer, tu devrais faire quoi d'autre? C'est quoi, du coup, les rêves qui sont apparus ou les envies qui sont apparues que tu t'étais peut-être pas forcément autorisé avant?
Déjà, j'en ai fait beaucoup. Déjà, d'être comédienne, c'était déjà un énorme pas. Donc déjà, ça, c'était le gros, gros point. Maintenant, je me vois réaliser, alors que à la base, j'étais rentrée dans un lycée option cinéma pour faire de la réalisation et finalement, j'avais arrêté. Aujourd'hui, je me vois faire de la réalisation alors que il y a quelques mois, j'y pensais, mais pas du tout, alors que c'est des rêves qui sont juste enfouis. Hein. Et je me vois aussi, en tout cas, j'aimerais, et je pense que c'est ce que je ferai un jour, pas en ce moment, parce qu'en ce moment, il n'y a que le cinéma qui est dans ma tête. J'ai du mal à faire plein de choses en ce moment parce que j'ai envie que de faire ça pour les prochains mois, mais après, mes idées changent vite. Mais j'aimerais, alors qu'au départ, par exemple, je me voyais en France, pourquoi pas donner des petits cours de yoga, de donner des cours un peu de sport, plus sport, mais plus dans le yoga, enfin, faire un mix des deux, en tout cas. Et en fait, ici, je me vois plus faire des gros cours de yoga, mais un festival avec plein de monde, des caméras. Enfin, je me vois... en fait, c'est comme si ma vision des choses avait... elle s'était élargie. Au lieu de donner juste un petit cours de yoga que je pouvais faire dans un petit studio, maintenant je me dis, si je le fais, Je le ferai sur un gros truc. Je donnerai pas des cours de yoga l'année, mais je ferai un gros truc, genre un gros événement, un gros festival. Au lieu de faire des petits scripts dans ma chambre, je vais prendre ma caméra et je vais aller filmer des trucs que j'ai envie. Au lieu d'écrire un petit court-métrage, je vais écrire un long métrage et puis je vais même le partager à des gens qui sont dans le milieu alors qu'avant, j'aurais jamais osé. Donc oui, il y a plein de choses. C'est juste qu'en fait, je pense que les choses sont les mêmes. Elles sont juste comme agrandies. Elles sont multipliées et il y a plus de courage, il y a plus d'oser faire quelque chose de plus grandiose.
C'est fou, hein, parce que la France fait près de 70 millions de personnes, le Québec péniblement 8, même si le territoire est beaucoup plus grand, c'est beaucoup, beaucoup moins d'habitants. Et pourtant, très vite, on pense plus grand. C'est ça, hein, ce qui aurait été une activité pour toi en France, là, quand tu y repenses, maintenant, ça devient un business, quoi.
Ouais.
C'est pas pareil.
Non. C'est multiplié et pourtant, on est sur un territoire qui est immense, mais en termes d'habitants, c'est plus petit. En termes de... Ouais, en termes même de travail, etc. C'est plus petit, mais je sais pas pourquoi c'est multiplié. C'est pas
ouais, parce que parce qu'ici c'est possible. Effectivement, les rêves que tu avais et qui étaient peut-être simplement des. En tout cas, les envies que tu avais, ici ça peut être des rêves.
Ils peuvent se réaliser, surtout.
Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le slogan du Paris Saint-Germain, ça doit être rêver plus grand ou rêvons plus grand, un truc comme ça. Et tout ça pourrait aller d'une certaine manière au Québec, même si je rappelle que pour ma part, je supporte l'OM. mais ça, c'est un autre débat. Parmi toutes ces activités que tu feras peut-être un jour, il y en a une que tu as déjà lancée, c'est un podcast.
Ouais.
Tu peux m'en parler un petit peu?
Ouais. Quand ça a commencé, les podcasts? Je m'en rappelle encore, j'étais dans le bus avec mon frère, on s'envoyait des textos et il me disait « Tu vas voir le podcast ». Ça commençait, c'était il y a quand même quelques années, hein. Je pense que j'étais encore à la fac. Et il me disait « Tu vas voir, c'est vraiment, ça va se multiplier, tu vas voir, il va y avoir un bel engouement autour des podcasts. C'est un peu l'avenir de l'audio, la vidéo, c'est bien, mais les gens, ils n'ont plus le temps de regarder, etc. Tu vas voir, ça va marcher et tout ». Et moi, j'écoutais des podcasts à cette époque-là. Je commençais en tout cas à écouter. Je disais, oh, c'est marrant ce truc. Il y a pas de... On ne voit pas le visage, mais on entend. Puis c'est long, c'est cool et tout. On a plein de choses à dire. Et moi, j'adorais écouter. J'adorais apprendre, me cultiver, etc. Mais sans pour autant prendre un livre et lire. J'aimais beaucoup pouvoir faire plein de choses en même temps et écouter. Et en fait, quand j'ai commencé, j'ai dit, mais... Moi, ça, c'est un truc que j'aimerais. Et forcément, c'est quand même corrélé avec le métier de comédien. C'est-à-dire que le fait qu'on entende une voix, j'aimais beaucoup ça. Parce que du coup, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un de mes rêves aussi, c'est de faire du doublage. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Uh-huh. Je vais en faire parce que j'ai déjà fait des voix off. Doublage pour un film, pas encore, mais ça va venir.
Ça va venir.
Mais donc, il y avait quelque chose avec la voix, avec le son. Bref, ça m'appelait. Et quand j'ai écouté les premiers podcasts, c'est sûr, un jour, je le ferai. Quand je suis arrivée au Canada... Je me suis dit, let's go, pourquoi pas lancer? Je lance ce podcast, j'ai trop de gens à interviewer, j'ai trop envie d'apprendre, j'adore rencontrer du monde. C'est la super belle occasion. Le podcast est une super occasion de faire des belles rencontres. Donc j'ai lancé et je me suis dit, on verra ce que ça donne. Au départ, je suis partie plus sur du développement personnel, puis après, je me suis dit, en fait, non, pourquoi je me resterais à me bloquer dans un domaine, en fait, j'ai plein de gens qui m'intéressent, qui ne sont pas forcément dans le dev perso. Et en fait, après, je suis partie à Terre-Neuve, j'ai eu des tournages, etc. Donc, j'ai dû arrêter parce que c'était compliqué de faire les deux en même temps. Et en fait, j'ai repris là dernièrement. Et c'est là où dernièrement, je me suis vraiment dit, en fait, je me suis restreinte vraiment à vouloir interviewer qu'un type de personne. C'est trop dommage. Je m'ouvre et puis là, écoute... Pour le moment, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément d'épisodes, mais j'ai vraiment envie de reprendre plus fréquemment, plus régulièrement le podcast. Donc ouais, sur les prochains mois, il va y avoir beaucoup plus d'épisodes. Donc c'est ça, c'est un projet qui était il y a longtemps, mais que tu vois, j'ai lancé que maintenant, quoi.
Bon, bah tu vois, comme quoi il suffisait d'Astro Québec pour lancer ça. Moi, j'ai écouté qu'un seul épisode pour l'instant, mais c'est le dernier avec, j'en parlais tout à l'heure, la caméraman qui fait sur Pékin Express, et c'est absolument super.
Génial.
Voilà, donc je mettrai le lien, évidemment, en commentaire de ce podcast, et je vous invite tous à aller écouter les épisodes déjà diffusés et attendre impatiemment les prochains.
C'est « Fais-moi rêver », j'ai changé, c'est plus « Why not ?»
Ah, bah oui, mais moi, il y avait encore écrit
« One Night in China ». C'est « Fais-moi rêver », j'ai changé.
Et tu vois, et on parlait de rêve tout à l'heure. Mine de rien, tu vois, et je n'avais pas l'info. Comme quoi, il y a quand même un truc, c'est tout ça, c'est une histoire de rêve.
Exactement.
Si ce n'est en podcast, on te retrouve donc sur la série « Justine à St. John's ». Qui est sur TV5. Tu sais par hasard si ça va être diffusé sur d'autres chaînes que TV5? En général, quand ça passe sur TV5, après, ça déploie.
Ouais. Pour le moment, c'est sur TV5unis.tv. Et l'ambition, ça serait de la diffuser à TV5 télé. Donc, on croise les doigts.
Ta-la-ta-la-ta-la. Eh bien, écoute, on croise les doigts pour toi. Je te remercie énormément. Et puis, on va continuer à te suivre, du coup, des deux côtés de l'Atlantique. Hein, donc.
Bien sûr.
Merci. À très bientôt.
À très bientôt. Merci.
Ciao, ciao.
Ciao.
Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, FAISTUFRE2TE, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.